CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIO Radio TV. À m'écouter pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour Billy.
Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Baptiste Tumerel. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Billy.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur logiciel pour les appareils médicaux chez EcoSens. EcoSens a un produit dont on va beaucoup parler tout à l'heure, mais juste avant, on voudrait regarder votre parcours. Vous êtes né dans le Nord, à Béthune.
Oui.
Et très jeune, vous aimiez les maths et vous aviez déjà, une appétence pour l'informatique. Il y avait des ordis déjà à la maison ?
Il y avait un ordi à la maison, effectivement. Mes parents étaient assez précurseurs, parce que je viens d'un monde agricole, mes deux grands-parents étaient agriculteurs de chaque côté. Et j'avais des parents qui n'étaient pas du tout dans le monde informatique. Et pourtant, ils ont su assez rapidement accompagner cette vague, cette révolution, et donc m'en faire profiter aussi.
Donc, il y a cette appétence, vous allez vous diriger vers un bac scientifique, et puis vous allez faire l'école centrale d'électronique. C'était une préparation intégrée, on va voir comme il est malin, car vous étiez déjà plongé dans le monde associatif sportif, et votre souhait, petit coquin, c'était de faire de l'informatique dès le départ, et de sauter ce qu'on appelle la case maths-physique.
La case, effectivement, la case prépa ouverte, comme on appelle.
Ouais, donc, vous avez préféré cette prépa intégrée. C'était malin, ça, pour se débarrasser de ce qu'on n'aimait pas trop.
Oui, y a surtout deux grands modèles qui existent sur l'éducation en termes d'ingénierie. Effectivement, les prépas intégrées ou prépa ouverte et ensuite un concours. Et moi, je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire. Je savais que j'étais plutôt parti sur l'informatique. Donc, en réalité, je ne voyais pas pourquoi passer sur la case maths-physique pendant 2 ans. Perte de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me permettait d'aller plus vite au but. On va dire ça comme ça.
Alors, plus vite, ça va passer par une université qui est la Staffordshire, qui est juste à côté de Manchester, en Angleterre. C'est un programme, finalement, d'échange Erasmus. Comment ça s'est passé là-bas ? Vous avez découvert autre chose ? Peut-être une éducation plus moderne, plus réelle que ce qu'on apprenait en France ?
D'abord, énormément de moyens qui sont déployés en Angleterre, avec des laboratoires qui sont très aboutis par rapport à ce que j'ai pu voir en France. Et ensuite, des matières qui sont très poussées. J'ai souvenir d'avoir recodé un compilateur, chose que j'ai jamais vue, pour le coup, dans les universités françaises ou dans des écoles d'ingénierie françaises. Donc, oui, c'est effectivement une expérience autre, enrichissante. Et bien sûr, des cours en anglais, évidemment.
Bien sûr. Alors, les études, finalement, vous aimez ça, puisque vous allez les reprendre en 2008. C'est en cours du soir et le week-end, et vous allez même passer un MBA à Paris-Sorbonne.
Tout à fait, oui.
Juste après. Alors, on va revenir à votre premier job. Vous êtes consultant en informatique, ça étonnera personne, et ingénieur software pour MAPI. Qui n'a pas connu MAPI ? À l'époque, on n'avait pas les applications sur mobile, on allait sur l'ordi et on prenait notre feuille de route.
Alors, ça va pas nous rajeunir, Billy, mais effectivement, on se remet dans le contexte où il n'y a pas encore de smartphones qui sont déployés, en tout cas en France. Et donc, Google Maps, par exemple, n'existe pas encore tout à fait, même s'il y a des prémices. Et MAPI est là, en France, pour compenser. Et donc, avec MAPI, j'avais eu l'occasion de développer pour eux une application qui était vendue par SFR, d'ailleurs, par l'opérateur SFR. Une application donc, de géolocalisation et de planification qui allait interroger les serveurs MAPI pour nous sortir des premiers plans.
Absolument. Alors après MAPI, on vous retrouve chez France Télécom.
La partie R&D, oui.
Ouais, absolument, la partie...
Recherche et développement, avec Cyril Moulineau, ainsi qui n'existe plus aujourd'hui.
Mais oui. Ensuite, ça va être l'aventure avec MBDA, c'était Matra historiquement.
Oui.
Ah, c'est important aussi dans le tissu de l'entrepreneuriat français. Et puis Exal, où vous êtes software projet leader. C'est en 2011 que vous vous posez pendant 12 ans, ce qui n'est pas n'importe quoi, chez General Electric Healthcare. Et en 2023, vous allez partir chez EcoSens. C'est assez récent, mais le fait d'être entré dans le monde médical, ça a changé beaucoup de choses.
Oui, alors j'ai eu moi-même un petit pépin de santé qui a été quelque part un révélateur en 2012. Et effectivement, en 2011, je travaillais comme consultant pour General Electric Healthcare et j'ai eu l'occasion, j'ai été repéré comme beaucoup de consultants, et j'ai eu l'occasion donc d'avoir une offre pour être internalisé. Et c'est vrai que les deux combinés ont fait que je suis parti dans cette voie, le milieu médical, alors que historiquement, je n'étais pas certain de la voie à suivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de l'armement, on a parlé de tout ce qui est télécommunication, avec MAPI et avec France Télécom R&D. Et donc effectivement, j'intègre une grande maison, General Electric, et plus particulièrement la branche healthcare, qui est maintenant scindée, puisqu'ils sont devenus une entreprise complètement indépendante sur le marché.
Et puis bien sûr, il y a EcoSens. Et avec Thierry, qui va vous poser des questions, la toute première, quand on regarde ce qu'est EcoSens, mon cher Thierry, on se dit que EcoSens a fait le choix d'un cloud d'Amazon, ce qui est assez étonnant et peu commun dans ce monde médical. C'est pas courant.
Oui, c'est assez surprenant. On a vu beaucoup de DSI et de dirigeants du secteur de la santé ici, qui nous ont expliqué qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles avec effectivement les opérateurs de cloud public, notamment avec les règlements sur les données de santé en France. Alors, comment vous avez fait ce tour de force et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la solution e-risk qui vous permet effectivement de sécuriser les données de vos clients?
Alors, c'est la solution e-risk qui est effectivement un partenaire qu'on utilise pour stocker les données sensibles, donc vraiment des données qui permettent d'identifier ou qui permettent d'associer des scores, des biomarqueurs donc, que l'on produit chez EcoSens via les fibroscans à des patients. Le reste des données non sensibles peut être traitées et stockées n'importe où. En l'occurrence, nous avons choisi effectivement AWS pour les stocker, ce qui permet par exemple de faire de la télémétrie, de récupérer pas mal de choses de nos systèmes. Mais rassurez-vous, l'ensemble des données dites sensibles est tout à fait protégé en partenariat avec la société Euris. Et alors EcoSens, c'est avant tout une société qui fabrique des fibroscans, hein, qui déploie plus de 1500 systèmes tous les ans, qui aident finalement au diagnostic de la stéatose hépatique ou de la fibrose hépatique via le calcul de deux biomarqueurs principaux. Et donc effectivement, la particularité du projet, du produit qui est sorti en 2021, qui s'appelle le FSGO, ça a été de cumuler cette capacité de calculer des biomarqueurs avec un modèle de paiement qui est le paiement à l'usage, qui est très particulier pour le monde médical, on n'a pas l'habitude de ça, et qui en plus cumule effectivement un upload, un transfert de données dans une solution cloud développée maison. Ouais.
D'accord. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu effectivement la technologie FibroScan? Donc je comprends, c'est qu'en fait, on est quasiment sur du edge computing avec des équipements qui permettent de détecter effectivement des pathologies des patients par des professionnels,
oui.
Et que ces données sont remontées sur effectivement votre espace effectivement sécurisé. La technologie d'Amazon, elle a été déployée partout ou comment vous avez fait? C'est des technologies en propre de la société EcoSens?
Le FibroScan, il est vendu dans le monde entier. La ligne de produits FSGO qui utilise justement cette partie cloud se limite pour l'instant à l'Europe et aux États-Unis, à l'Amérique du Nord pour être tout à fait exact, puisque effectivement il nous faut déjà des serveurs de sécurisation de données locaux, c'est ce qui est demandé par les réglementations aujourd'hui. Il nous faut aussi des partenariats avec des instances d'Amazon locales. On a velléité de s'ouvrir peut-être sur le Japon dans les années à venir, mais voilà, ça va se faire vraiment étape par étape. Donc on a deux parties finalement. On a une partie FibroScan, l'appareil en dur, qui est relativement autonome, qui vient se brancher dans l'écosystème de la DSI médicale, hein, du centre hospitalier ou de la clinique hospitalière. Et lui est vendu worldwide, sans aucun, enfin, avec des problématiques de réglementation traditionnelles, on va dire. Et puis, effectivement, cette nouveauté FSGO, qui est notre produit connecté, donc, où on va avoir un déploiement étape par étape pour vraiment garantir justement toute la sécurité et de construire, et même contractuellement, juridiquement, il y a pas mal de questions à se poser.
Oui, parce qu'en fait, pour bien comprendre, le prélèvement numérique est fait dans les hôpitaux.
Tout à fait.
Mais c'est bien vous qui faites le diagnostic avec vos systèmes à distance ou est-ce que le diagnostic est fait localement?
C'est pas un appareil de diagnostic, on laisse le médecin assurer un diagnostic, c'est une aide au diagnostic.
Ah, c'est une aide au diagnostic, d'accord.
Absolument, et ça fait toute la différence. On développe aussi des scores, d'ailleurs, qui peuvent aider encore plus au diagnostic les praticiens, au score d'identification d'une stéatose ou score d'identification d'une fibrose ou d'une cirrhose avancée. Ces scores sont mis à disposition dans notre plateforme cloud, évidemment, pour avoir un écosystème complet. Cette plateforme cloud permet aussi d'avoir quelque part une académie qui accompagne les médecins dans l'aide au diagnostic et dans le traitement et le finalement le post-traitement humain de la donnée. Et puis c'est aussi une facilité parce que aujourd'hui on parle énormément de tout ce qu'on appelle la maladie du foie gras, donc la stéatose hépatique non alcoolique. Qui est un vrai fléau, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 500 millions de personnes concernées dans le monde entier, hein, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est juste énorme, et 5% de la population mondiale qui pourrait développer des pathologies assez graves. Donc, toute la problématique, c'est d'aller sur un dépistage très largement répandu, et donc de rentrer dans des cabinets de ville, ce qu'on appelle le primary care, chez des endocrinologues, des diabétologues, gastro-entérologues, qui n'ont pas forcément les moyens, la DSI, pour pouvoir stocker des données, pour pouvoir faire du post-traitement. Donc en fait, notre mission, c'est de les accompagner, quelque part, dans un écosystème complet, clé en main, comme un partenaire privilégié.
Donc en fait, vous proposez à terme tout un parcours.
C'est ça.
Pour accompagner au-delà du diagnostic, oui. Effectivement, les médecins traitants. Notamment que ce soit des endocrinologues ou effectivement les gens qui travaillent sur les problèmes de nutrition ou effectivement d'alimentation.
Oui, donc on va les accompagner sur le dépistage en amont, effectivement. On va accompagner les centres hospitaliers une fois que les patients ont été orientés sur les centres hospitaliers pour le traitement lui-même. Et puis on va accompagner aussi ensuite à nouveau les médecins traitants pour le suivi. Médical, post-traitement, ouais, tout à fait. Donc toute la chaîne, finalement, est couverte.
Et donc vous, votre responsabilité en tant que directeur du logiciel, c'est vous travaillez sur tout le périmètre effectivement, des softwares qu'on développe sur le FibroScan et sur effectivement, les systèmes de scoring. Globalement, comment vous voyez évoluer effectivement, cette chaîne sur le parcours ? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels à développer ? Est-ce que vous allez utiliser aussi l'intelligence artificielle pour faire des recommandations ?
Il y a toujours à s'améliorer, ça c'est évident. Écosens, entreprise leader dans son secteur, il faut qu'on pousse l'innovation pour rester leader. Ça c'est un premier point qui est très important et c'est avant tout dans les fibroscans que ça va se jouer, puisqu'on s'améliore de jour en jour sur justement le dépistage fibrostéatose notamment chez les patients obèses. Ensuite, il y a effectivement toute une partie accompagnement des groupes pharmaceutiques. On n'en a pas encore parlé, mais Ecosens réalise aujourd'hui une partie de son chiffre d'affaires là-dessus. Il y a plus de 100 études cliniques aujourd'hui qui sont en train d'essayer de mettre au point une molécule justement pour combattre cette maladie du foie gras, la maladie du coca. Et aucune n'est encore arrivée à terme, sauf en Inde. C'est un cas très particulier. Et donc, sur ces plus de 100 études cliniques, on a 90% qui utilisent un fibroscan comme support pour récolter des données. On a plus de 50% qui va avoir un partenariat stratégique construit avec Ecosens pour réaliser de l'analyse de données a posteriori. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer des algorithmes un petit peu avancés, type IA, pour aller plus vite dans cette analyse.
Mais du coup, vous allez valoriser votre référentiel de données et effectivement, toutes ces études cliniques que vous additionnez au fur et à mesure des mesures chez vos clients.
D'accord. C'est effectivement un premier objectif et on peut imaginer beaucoup plus ensuite. Ouais.
Donc, vous intéresserez, je pense, au plus haut point, la DSI du futur laboratoire pharmaceutique qui va venir ici nous voir.
Oui. En tous les cas, merci Thierry pour vos questions. On va terminer avec vous, Jean-Baptiste, pour dire que l'informatique, hein, vous avez eu le virus très très jeune, mais il y a autre chose qui vous passionne dans la vie, c'est le sport.
Oui, le rugby particulièrement.
Alors, le rugby, on va terminer avec ça, parce que nous avons la chance, Thierry, d'avoir ce soir quelqu'un qui a rencontré Fabien Pelousse. Il est sympa. Non mais, c'est important, les joueurs de rugby n'ont jamais été starisés comme les joueurs de football, mais on commence un petit peu. Alors, comment vous avez rencontré Fabien Pelousse ?
Complètement au hasard. C'était dans les années 2002-2003, de mémoire. Donc effectivement, une soirée sur Paris, et Fabien Pelousse qui sort de son match au Stade de France. Et j'ai eu l'occasion de le croiser. Donc c'était un moment assez intense, puisqu'à l'époque, en plus, j'étais très très fan de lui. On jouait au même poste. Hein. On joue tous les deux numéro 5. Donc,
Vous avez autant de succès que lui sur la pelouse ?
Je ne suis pas sûr. Pas les mêmes résultats, en tout cas.
Mais écoutez, la prochaine fois qu'on se croise, j'espère qu'on aura Antoine Dupont dans la rue.
Pourquoi pas ?
Rue du Pont.
Ou Fabien Galthié, exactement.
Oui. Alors en plus.
On organiserait ça.
Il nous reste 30 secondes. C'est important. Vous vous occupez d'une association qui s'appelle Jeux de Mômes.
Oui.
Ça consiste en quoi, cette ASAS ? Alors,
l'idée, c'est de, effectivement, tisser des événements à l'échelle locale, donc dans ma région, pour récupérer des fonds et aider les enfants.
Mmh. Alors, les aider dans quel sens et dans quelle région ?
Alors,
la vôtre ?
Principalement la mienne, effectivement. On reste sur, encore une fois, un échelon local. Dans quel sens ? En promulguant, par exemple, l'achat de livres ou ce genre de choses, des fournitures principalement scolaires. Ouais.
Voilà, jeu de môme, si vous voulez jeter un coup d'œil et être gentil donateur, comme on dit, vite sur votre computer, donateur, computer. C'est pas mal. Hein. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Baptiste, pour avoir accepté notre invitation, et Thierry pour ses questions et de nous avoir reçus dans ses locaux. C'est déjà la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.